comprendre le monde sans jamais oublier d'en rire, hein, quand même à le répéter Mathieu Noël chaque après-midi sur Europe 1 le week-end. Eh bien, c'est l'occasion de nous replonger dans les moments phares de la semaine ou même des semaines précédentes. Et on se fera d'ailleurs plaisir avec Monsieur Poulpin lorsqu'il était venu nous voir en février dernier. Côté chronique, car la compétition continue pour les journalistes d'Europe 1, eh bien, on vous parlera de Confinage TV, une chaîne parodique qui cartonne. On parlera également d'immobilier puisque les requêtes pour une maison explosent. Au programme également les animaux et l'importance du contact physique. Mais avant, Mathieu Noël s'entretient avec une personnalité.
C'est notre kiff du confinement. Chaque après-midi, on prend des nouvelles d'une star confinée grâce à des moyens techniques dernier cri. Une connexion FFDP 64 bits monophasée multipiste Dolby Atmos 7.1. La liaison est toujours optimale, comme on a encore pu le vérifier avec Jean-Paul Roux jeudi dernier.
Bonjour Jean-Paul.
Ça va?
Allô?
Oui, vous nous entendez?
Allô?
Allô, allô?
Oui, est-ce que vous nous entendez, Jean-Paul?
J'entends rien du tout. J'ai pas de retour.
Il n'entend pas.
Je vois que c'est marqué connecté, mais...
Connecté, ouais, nous on vous entend très bien.
Je n'ai pas de retour. Qu'est-ce qu'il faut faire?
On va vous appeler. Oui, ça sert à rien que je dise ça s'il ne nous entend pas.
Oui, on va vous appeler. Vrai. On dit de ces bêtises parfois, hein, Eva. Aujourd'hui, le miracle de la technique aura-t-il lieu? Allez, je me lance. Bonjour Arnaud Ducret.
Bonjour.
Alléluia, Arnaud. Vous nous entendez Arnaud?
Alors, non, là c'est Jean-Paul Roux à l'appareil. Les gars, mettez-vous au point sur les invités. Hein.
Alors, Arnaud Ducret, je prends la définition du Larousse. Comédien français en vogue, présent dans tous les bons coups du cinéma en 2020. Si le Covid n'était pas passé par là, on aurait dû vous découvrir fin mars dans Divorce Club, primé à l'Alpe d'Huez. Et on peut d'ores et déjà vous découvrir chez soi, en VOD, dans Mine de Rien, autre comédie, également primée au Festival de l'Alpe d'Huez. Vous êtes vraiment dans tous les bons coups en 2020. C'est votre année.
C'est mon année. C'est mon année, oui et non. Enfin, c'est l'année de tout le monde et de personne, en fait, parce qu'avec ce confinement, effectivement, on a tous des projets extraordinaires, mais aucun ne sort.
Bah si, là, on peut voir Mine de Rien en VOD.
Oui.
Il était sorti en février, là, on peut déjà le voir en VOD, c'est bien.
Mais oui, c'est bien, parce qu'en plus, il a été en pleine projo et tout s'est arrêté, puisque les cinémas sont fermés. Donc oui, il continue sa petite vie cinématographique en VOD, et avec le confinement, on va peut-être avoir plus de gens qui vont regarder, d'ailleurs, c'est peut-être mieux, quoi.
Un mot déjà du film très attendu de Michael Youn qui devait sortir ce printemps et pour lequel on devait vous recevoir, Divorce Club. C'est évidemment rageant pour vous, mais faut voir le bon côté des choses. Vu le nombre de divorces qu'il va y avoir en sortie de confinement, le film sera complètement dans l'air du temps. Finalement, c'est un mal pour un bien.
Vous avez vraiment le sens de la transition. Ça, c'est enfin, la transition, en tout cas, d'amener les sujets, quoi. Oui, non, c'est la vraie chose pour laquelle on s'en sort pas trop mal. C'est que j'ai, par exemple, ma copine Melra qui était sur Forte, le film là pour le coup s'est arrêté et elle l'a sorti immédiatement en VOD. Alors que nous, on ne l'a pas encore sorti. Donc effectivement, il a peut-être encore une chance d'avoir sa vie au cinéma, quoi.
Oh bah, ça, c'est sûr, c'est un film qui a été primé à l'Alpe d'Huez. Ouais. Tout le monde en parle de ce film. Hein. Franchement, je vous le dis, on fait la promo pour beaucoup de films ici. Mais Divorce Club, c'est un film qui est très attendu. Donc, il va sortir évidemment au cinéma.
Ah ouais,
c'est sûr.
Je suis très fier de ce film. Moi, comme je disais avec mon agent, quand on a vu la première fois le Divorce Club, elle m'a dit, mais en fait, c'est pas un film, c'est une bande démo. C'est-à-dire que il m'arrive tellement de choses dans ce film et je passe tellement par des couleurs de jeu et des étapes totalement incroyables avec ce personnage que oui, moi, je suis extrêmement fier de ce film. Et c'est vrai que même moi, on attendait beaucoup avec Michael Youn, on était en promo. Donc bon, voilà, on se dit qu'on garde le moral et que ça va ressortir, quoi.
Il passe un petit moment avec nous cet après-midi et à l'instar de tous ceux qui passent un moment avec nous, il trouve notre émission génial, comme Jean-Paul Roux jeudi.
C'est complètement con. Voilà, je peux pas vous dire mieux, c'est con.
Et oui, aujourd'hui, c'est au tour d'Arnaud Ducret d'en prendre plein les yeux.
Europe 1, 16h-18h, l'équipe est sauvage.
Vous écoutez l'équipe est sauvage spécial confinement et de même qu'à 20h, la tradition veut qu'on applaudisse les personnels soignants, les urgentistes. À 16h, la tradition veut qu'on appelle une personnalité qui d'ailleurs, en l'occurrence aujourd'hui, aurait pu être urgentiste. Bon, évidemment, son franc-parler aurait pu un peu décontenancer les patients quand il leur aurait expliqué l'effet du coronavirus.
La douleur va te sécher d'un coup. Ton cœur va s'arrêter une microseconde. Si tu sens douleur dans le thorax, c'est normal. C'est ta plèvre qui se décolle.
Arnaud Ducret est en ligne avec nous cet après-midi. Heureusement que vous n'êtes pas devenu urgentiste. Arnaud, je vous connais un peu, je le disais, quelques années que je vous croise sur les plateaux. Vous êtes un mec hyper sympa, accessible, d'accord. Mais là, à force d'être la tête d'affiche de toutes les bonnes comédies françaises, vous allez finir par choper la grosse tête. Moi, ça m'inquiète. Moi, je vous l'avoue, ça m'inquiète. Je me dis, Mais quand est-ce qu'Arnaud, il va basculer?
C'est ça, ouais. Quand est-ce qu'Arnaud va envoyer chier les gens? Vous savez, comme me disait Isabelle Nanty, être méchant sur un plateau de cinéma et mal parler aux gens, tu sais, Arnaud, c'est plus à la mode, elle me dit.
C'est exactement ça.
C'est Asbine.
Vous avez jamais remarqué que quand vous êtes acteur et que vous dites bonjour à quelqu'un, souvent la personne à côté va dire, t'as vu, hein, il est bien, il dit bonjour. Enfin, c'est juste la base.
C'est la base, mais oui, c'est vrai. Alors, on parle de Mine de rien, qui est actuellement disponible en VOD, ce film qui était sorti fin février et qui a été un peu balayé malheureusement par le coronavirus. Je raconte en quelques mots l'histoire. On est dans une région minière, vous faites partie d'un groupe de chômeurs longue durée, et pour vous en sortir, vous avez décidé de construire un parc d'attractions artisanal sur une ancienne mine de charbon désaffectée. Ça va pas être facile, on va vous mettre des bâtons dans les roues, mais grâce à l'ensemble de votre bande, vous allez mener à bien ce projet. C'est un film qui résonne avec l'actualité, un film sur la solidarité et le collectif finalement.
Mais oui, mais alors c'est un film que moi j'ai accepté il y a 6 ans. En fait, on l'avait déjà proposé. Mathias Mlekuz, le réalisateur, me l'avait proposé. Ça devait jouer avec Philippe Robot, que j'adore, qui joue avec moi dans le film.
Qui est génial.
Ouais, il est formidable. J'adore ce mec. Et puis, bon, bah voilà, 6 ans plus tard, on le remonte. Et effectivement, alors que c'est le même sujet qu'il y a 6 ans, la résonance est un peu plus forte. Et avec le confinement, et effectivement avec le groupe aussi des Gilets jaunes, où tout d'un coup, cette espèce de solidarité populaire qui veut s'en sortir, quoi.
Vous dites, en Angleterre, on voit beaucoup de films sur la solidarité et le collectif, comme Full Monty et les longs métrages de Ken Loach. Mm-hmm. En France, c'est rare, on n'est pas dans cette culture et on l'a de moins en moins. C'est un joli conte social sur la solidarité dans une période très égocentrique. Moi, j'ai bien aimé la comparaison avec Full Monty. C'est un peu cet esprit-là hein, dans le film Mine de rien.
Ouais, ben c'est ça. Ouais, c'est vrai que... Mais même moi, quand je l'ai lu, c'est vrai que il y avait des choses. Par exemple, dans Full Monty, on a un moment où on voit les acteurs répéter leur pas de danse dans la banque postale aussi. Ils sont dans une banque, je crois. Ils font la queue pour récupérer des. Et c'est un peu nous quand on fait la queue aussi dans Full Monty pour dans Mine de rien
pour retirer pour retirer quelques sous.
Voilà, et c'est il y avait plein de petits détails comme ça. Alors évidemment, il y a le côté même dans les paysages, le temps, on n'est pas dans un truc où il fait hyper beau, il fait froid. Enfin, il y avait tout un truc qui me rappelait vraiment ça. Et puis effectivement, ce sont des comédies qui existent depuis longtemps. Ces fameuses comédies sociales en Angleterre, ça existe depuis un paquet de temps. Ils ont le sens du groupe. Il y en a une autre comédie que j'aime beaucoup, qui est très musicale. Je sais pas si vous la connaissez, c'est Commitments.
Oui, voilà.
C'est sur la musique, mais c'est pareil. C'est un groupe de mecs. Alors là, évidemment, un groupe de musiciens qui vont tout faire pour s'en sortir avec chaque vie qui avance. Et ça me plaisait énormément, quoi.
Et dites-moi, vous avez deux enfants dans le film Mine de rien qui sont absolument horribles. Hein,
oui.
Et je me disais que si vous les aviez en période de confinement, là, en ce moment, vous les auriez déjà jeté de chez vous, non?
Ah bah j'aurais acheté un congélateur, oui, ça c'est sûr. Ah bah là j'aurais acheté un gros congélo, là.
Comme on dit dans le petit milieu de l'infanticide.
Exactement. Mais c'est une des raisons pour laquelle ça me plaisait de faire ce film aussi, c'est la paternité, c'est-à-dire que mon personnage est en quête de respect de ses enfants, des autres, de la société, de l'amour de ses enfants. Voilà, il a une chape de béton au-dessus de lui qui est assez costaud au début du film. Et chacun, petit à petit, va se révéler en n'étant plus spectateur de leur vie, mais en devenant acteur. Et avec ce parc d'attractions, entre autres. Et tout le monde se révèle et le sourire revient, quoi.
Et vous avez combien d'enfants dans la vraie vie en ce moment, chez vous?
Alors moi, je suis avec ma fiancée à des triplés.
D'accord.
Ah ouais. Ah bah là, j'ai pris le gros lot, là. Là, je suis, j'ai passé mon BAFA, donc c'est bon, tout va bien. Donc j'ai trois triplés, évidemment. Hein. Voilà, les triplés. Et puis, mon fils de 8 ans. Mais je dois vous avouer que mon fils de 8 ans fait plus de boucans que 3 gamins réunis.
Mais comment ça se passe justement le confinement, Arnaud? Vous vivez bien cette période? Est-ce qu'il y a beaucoup d'artistes qui nous disent oui, c'est un temps pour l'introspection, tout ça? Vous, je sais pas, je vous imagine plutôt avoir envie de sortir, aller boire une petite bière avec des amis, quoi.
Ah, mais jamais de la vie d'introspection, mais je m'en contrefous. Jamais de la vie. Jamais. Alors moi, écoutez-moi bien, le discours que je respecte chez les autres, il n'y a aucun problème. Mais alors le discours, non, mais je pense que c'est un moment où, si vous voulez, on va revenir sur nous-mêmes, sur les bases. Je m'en contrefous. Moi, je veux tourner des films, je veux voir mes copains, je veux faire des terrasses, je veux aller sur les Champs-Élysées, qu'il y a plein de monde. Je veux voir ma famille. Non, mais là, c'est une catastrophe. Moi, je déteste ce moment, je vous le dis très honnêtement.
Oui, mais vous faites du pole dance chez vous en même temps.
Alors, je fais du pole dance. Non, ce qui est le plus. C'est pas que j'en fais, c'est que je regarde ma femme en faire. Et ça, c'est très agréable.
Donc, votre femme est une pro du pole dance, il faut le dire. Enfin, c'est parce que c'est pas un hobby courant.
Non, elle a une école à Paris. Et c'est vrai que la particularité, c'est qu'il faut juste une barre pour pouvoir. C'est vraiment du cirque ce qu'elle fait. C'est assez incroyable. Moi, j'ai un grand respect pour ce qu'elle fait. À chaque fois, je suis assez épaté. Et donc, dans la maison, là, elle a mis une barre. Et tous les jours, elle fait de la pole dans la maison pendant que je prends mon café.
Oh, Arnaud Ducré, on a hâte de vous avoir en studio avec nous.
Mais oui.
Alors, quand Divorce Club sort, vous venez tout de suite
un grand
studio,
plaisir.
Dans l'équipe sauvage, on sera
on vous
déconfinés.
Attend.
Merci d'avoir été avec nous cet après-midi un petit peu.
Oui. Mathieu, pardonnez-moi si je peux me permettre, une mention spéciale à vos réalisateurs et monteurs qui font un boulot de dingue à chaque fois. Je me dis, mais les mecs,
ah, oui.
Ils, enfin, vous aussi évidemment, mais vous êtes au taquet. Hein. Ouais. C'est une super émission, j'aime beaucoup.
Merci infiniment.
Merci beaucoup Arnaud Ducret d'avoir été avec nous cet après-midi et à très bientôt.
À bientôt
en studio.
16h, 18h, l'équipe est sauvage sur Europe 1.
Les animaux traversent avec nous l'épreuve du confinement. Vous vous posez peut-être des questions, on aura des réponses dans un instant. C'est la suite de l'équipe est sauvage.
Je rêve, pense-moi pour voir. J'avoue, j'ai du mal à le croire. C'est moi qui chante ce soir. Est-ce que c'est moi qui, vraiment moi qui chantais? Suis-je plus laide ou plus belle que sur la photo de mon disque orange? Suis-je seulement celle, celle dont j'ai l'air? Souvent je chante.
Féminine de l'année aux Victoires de la Musique 2020, Clara Luciani, nue sur Europe 1.
Europe 1. 16h, 18h sur Europe 1. L'équipée sauvage.
Avec le confinement, on garde nos distances, ça pèse hein, parfois, mais sachez que l'importance du contact physique existe aussi chez les animaux, c'est vital pour eux et des expériences l'ont montré et on en a parlé cette semaine dans l'équipe est sauvage. C'était ce jeudi sur Europe 1 avec Mathieu Noël, Eva Rock et Farah Kessri.
L'équipe est sauvage, la grande compète des journalistes d'Europe 1 continue. Des journalistes qui tentent de battre leur adversaire ou parfois, quand leur adversaire est sexy comme Farah Kessri, de pécho leur adversaire. Justement, aujourd'hui, Mathieu Charrier s'est dit que sa pilosité quasi simiesque pourrait taper dans l'œil de Farah qui est vétérinaire et donc amoureuse des animaux. Il vient de tenter hors antenne un petit striptease.
Ah ouais. Ah, je suis pas fan des poils, moi.
Et non, on ne peut pas plaire à tout le monde. Ce qu'elle aime dans le boulot, elle ne l'aime pas forcément comme ça dans les relations humaines. Désolé Mathieu. Farah, c'est à vous. Aujourd'hui, vous nous parlez du besoin atavique de contact physique, non pas chez le charrier, mais chez l'animal.
Oui, nous sommes tous des animaux, hein, ça je vous le rappelle. Et contrairement à ce que l'on pourrait penser, c'est pas la vision ou l'odorat qui sont des sens vitaux à notre survie, c'est surtout le sens du toucher. C'est le seul sens qui est commun à toutes les espèces animales, quel que soit le degré de développement. On retrouve le sens du toucher chez une simple paramie ici. C'est un organisme à une seule cellule. On le retrouve aussi, bien sûr, jusqu'aux poissons, serpents, vers de terre, girafes et aux humains. C'est par le toucher que chaque être vivant découvre ce qui l'entoure, qu'il apprend à reconnaître ce qui est dangereux pour lui, ce qui est douloureux ou au contraire ce qui est doux. Et pour les humains, quand on est petit, c'est aussi par le toucher que nous prenons conscience du monde qui nous entoure et que nous prenons conscience aussi de nous-mêmes.
Je vous arrête, Farah, parce que ça ne marche pas à tous les coups. Parce que là, par exemple, alors qu'on parle, Mathieu Charrier est en train de toucher les bouteilles de vin qu'il vient de recevoir. Il ne se rend pas compte que ça représente un danger pour lui. Il croit que c'est juste bon. Donc le toucher peut être trompeur aussi. Même si ça serait quand même la base, d'après vous, de notre construction cérébrale.
Alors, c'est pas moi en particulier. Ce sont des psychologues. Surtout dans les années 50, ils avaient commencé à faire des drôles d'expériences. Il y a un psychologue américain du nom de Harry Harlow. Il a réalisé, il faut l'avouer, d'horribles expériences sur des jeunes singes macaques rhésus pour mettre les bases de sa théorie de l'attachement. Il a mis en isolement social des bébés macaques en les séparant de leur mère dès la naissance, et aucun de ces bébés singes n'avait de contact avec un autre singe. Donc c'était vraiment en total isolement social. Puis au bout d'un certain temps, il présentait à ce petit singe deux substituts maternels en métal. L'un était doté d'un biberon avec du lait, l'autre seulement recouvert d'un doux tissu éponge. Et bien même si parfois le bébé macaque tétait quelques secondes le biberon, il allait très vite se blottir contre la fausse maman en éponge pour pouvoir avoir ce doux contact, et il restait beaucoup plus longtemps.
Ah, c'est incroyable.
En fait, le réconfort était plus important pour lui que la nourriture.
Absolument. Et ce choix est un comportement qui est inné, parce qu'à partir du contact, tous les bébés issus d'une espèce sociale calment leur peur de l'inconnu. Et c'est en calmant leur peur de l'inconnu qu'ils vont pouvoir aller explorer leur environnement. S'ils restent dans leur peur, il n'y a pas d'apprentissage et donc pas de développement cérébral suffisant. C'est comme si il fallait ce contact, ce lien de contact du toucher pour qu'on puisse nous-mêmes nous développer. Mais aussi, ça, c'est le toucher qui nous aide à maintenir notre santé psychique.
C'est incroyable. J'avais pas mesuré l'importance du toucher à ce point-là, en fait.
Et le monsieur dont vous nous parlez, le scientifique, là, il avait le droit de mener tous ces expériences. C'est affreux quand même.
Oui, c'était les années 50-58 exactement. C'était des expériences où il y avait des journalistes qui venaient. On peut retrouver d'ailleurs la vidéo sur Internet en tapant « Théorie de l'attachement à Harry Harlow ». Et en fait, il y a des psychologues qui étaient sur plutôt l'espèce humaine qui ont appliqué ce genre d'expérience aussi sur des bébés humains. Pas
mais
aussi
non.
cruellement, mais quand même. Et il y a eu justement quand un bébé n'est pas caressé, câliné, à qui on ne sourit pas, eh bien vous allez voir qu'il ne se développe pas, il est tout le temps dans la peur et il a des retards de développement. Donc le toucher est à la base de notre construction comme espèce animale et c'est vraiment commun à toutes les espèces sociales.
On a tous besoin d'amour, c'est la leçon de cette belle chronique. Merci Farah Kessri. Mathieu, une réaction ?
Dites donc.
Merci Mathieu.
Europe 1, 16h-18h, l'équipe est sauvage. Europe 1, Émilie Mazoyer.
Toute la journée, la musique vous accompagne sur la radio ouverte.
L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h-18h.
Avec Mathieu Noël, sa complice Eva Rock et à présent Axel de Tarlé, dont on va découvrir maintenant le sujet. On va parler immobilier, puisqu'avec le confinement et le télétravail, beaucoup de citadins rêvent d'espace, de jardin, de vie au vert et renforcent le désir de maison individuelle.
Par son travail d'enquête journalistique, la clarté de son analyse ne suffit pas à s'imposer dans la grande compète des journalistes d'Europe 1. Dans ce western sans foi ni loi qui est devenu l'équipe est sauvage, Axel de Tarlé l'a compris mieux qu'aucun autre, il faut également humilier ses rivaux. Là où Axel, le dauphin myope, a commis une grave erreur lundi, c'est qu'il a confondu ses concurrents avec les arbitres du match, en l'occurrence Eva et moi. Alors certes, avec son quiz à la con, il nous a bien humiliés, mais il n'a pas vu la couleur d'un point.
Un petit quiz amusant. Le Gers, c'est quelle région? Le Gers.
Auvergne.
Non. L'Occitanie. La Corrèze, c'est quelle région?
Centre.
C'est le centre, oui.
Non, c'est une catastrophe. C'est la Nouvelle-Aquitaine.
Oui, bon, ça va, Axel.
Je vois que je tape un peu haut avec mon quiz. J'aurais dû faire plus simple.
Oh là là.
Aujourd'hui, Axel, si vous avez des questions cons à poser, posez-les directement à Jean-Philippe Ballas. Lui, il vote pas. Hein.
Oui, ben, si vous voulez, je peux faire une remarque sur sa chronique. Je la trouve, si je peux me permettre, mon Jean-Philippe, inachevée ta chronique.
Ah, là, autre chose.
D'abord, vous ne me tutoyez pas.
Qu'est-ce que vous auriez fait, vous, Axel?
Ben, si c'est moi qui l'avais faite, j'aurais demandé à Jérémy Trompette d'imiter un discours ou un laïus de Mathieu Noël. Ça, c'eût été drôle. Ça, c'eût été une façon de clouter la chronique.
Non, mais c'est pas possible.
Voilà.
Hein.
Inachevé.
Non, mais attendez.
Jean-Philippe, un droit de réponse?
On ne tire pas sur les ambulances.
Oui, non, on est d'accord. On est d'accord, Jean-Philippe.
Oh, pauvre Axel.
Bon, alors,
Axel, aujourd'hui,
chronique sérieuse. Ouais.
Vous nous parlez d'immobilier. Les Français ont une envie en ce moment, une maison avec un jardin.
Exactement, puisqu'il y a Se Loger qui vient de publier les tout premiers chiffres donc post-confinement des recherches immobilières. Et on s'aperçoit que les requêtes pour une maison ont bondi de 20 points. Elles représentent désormais 65% des recherches, donc elles sont devenues largement majoritaires. Il y a un autre site également, un autre site immobilier qui s'appelle Bien Ici, qui montre que, vous savez, quand vous cochez, vous pouvez cocher des critères sur des maisons. Bien, ceux qui cochent jardin ou terrasse, plus 43%. Et il y a un dernier critère également qui montre que les transactions qui ont été finalisées, alors vous savez, à la fin, il y a toujours une ultime négociation. Et bien, quand c'était pour acheter des maisons, les acheteurs ont surenchéri. Par rapport au prix d'origine, ils étaient prêts à payer plus. Alors que pour les appartements, ça a été le contraire. Toutes les transactions fin mars, on s'est aperçu que les vendeurs ont dû faire d'ultimes concessions, revoir leurs prétentions à la baisse pour finaliser la vente. Ce qui veut bien dire que, avec ce confinement, il y a un appétit. Hein. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que vous savez, maintenant, on sait tout de vous, avec le big data, tout ça, comme on dit, on s'aperçoit que ceux qui recherchent des maisons, ce sont souvent des jeunes. Donc des jeunes, bah, s'ils recherchent des maisons, c'est qu'ils ne cherchent plus d'appartements.
Oui, mais je peux me permettre une question.
C'est un raisonnement infaillible. Eva.
Oui, Axel, bon, on comprend que les gens aient envie d'extérieur en cette période de confinement. Est-ce qu'ils ne cherchent pas non plus aussi à s'éloigner des villes? Les villes, et les grandes villes notamment, qui ont été souvent ce qu'on a appelé les clusters, c'est-à-dire des endroits où le virus s'est propagé plus facilement.
Je crois que si vous voulez, pour les jeunes, d'abord, ils s'aperçoivent qu'ils ne sont pas les bienvenus en centre-ville, où au fond, c'est trop cher. Donc vous ne pouvez pas vous projeter en couple et avoir des enfants en centre-ville. Et peut-être que le déclic, ça a été, vous savez, pour des ingénieurs ou des cadres, il y a aujourd'hui un quart quand même des salariés qui sont en télétravail. On se dit, mais on va peut-être pouvoir s'organiser.
On découvre que ça marche, le télétravail.
Et oui, on s'aperçoit que ça marche. Et on dit, peut-être qu'on va pouvoir s'organiser et peut-être que je n'aurai pas ou en tous les cas, à venir aux heures de pointe dans les grandes villes.
Bah écoutez, moi-même, je voulais vous en parler. Je voulais en parler à la direction d'Europe 1. Je trouve que ça marche pas mal, ce système de ligne chez soi. C'est pas mal. Voilà, on pourrait l'envisager peut-être sur le long terme.
Ouais, mais votre canapé est défoncé, donc il va falloir trouver une solution. Ouais.
Si je vends mon appartement à Paris, j'aurai de quoi en acheter un autre, hein, tranquillement, à la campagne, voilà, on sera bien.
Voilà. Et à contrario, il y a quelque chose qui a été très révélateur. C'est ce que disent les agents immobiliers. Au fond, on ne cherche plus un logement en ce moment, on se rend compte qu'on cherche un lieu de vie. Vous avez vu tous ces Parisiens qui ont fui la capitale? Paris est le seul département qui a perdu des habitants avec le confinement. Hormis le ski, mais ça c'était pour d'autres raisons. Ce qui veut bien dire que quand les gens se disent « Tiens, j'ai du temps à passer, où est-ce que je vais être bien ?» Eh ben, c'est pas dans mon petit appartement parisien, c'est pas dans les petits appartements des grandes villes, qui sont des appartements qui, à force d'avoir été optimisés par les promoteurs immobiliers, sont devenus les appartements invivables. Franchement, ces chambres de 9 mètres carrés, là, où on se dit, tiens, bah, c'est parfait, comme ça, tac, 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 c'est des chambres très bien pour dormir. Mais c'est pas des chambres où on passe une journée dans un 9 mètres carrés. Et donc, il y a de se dire, allez, on a besoin d'espace, on a besoin de vivre, on n'a pas besoin que de dormir dans un logement. Et bah oui, c'est peut-être ça combiné avec le développement du télétravail qui s'est installé dans la vie professionnelle, pour ceux qui le peuvent bien sûr, mais enfin, je rappelle, 25% des salariés sont en télétravail, et bah c'est peut-être la revanche des villes moyennes sur ces grandes métropoles arrogantes et devenues trop chères de toute façon pour tous nos jeunes.
La revanche des villes moyennes, lui, il sait clouter une chronique, prenez-en de la graine, Jean-Philippe Ballas. Merci Axel de Tarlet. Comme j'ai toujours pas digéré en fait votre guet-apens géographique de lundi, juste pour être sûr qu'on vous raye bien votre Laguna si jamais vous descendez dans le sud cet été. 5 secondes de Rému dans la trilogie de Pagnol.
Et voilà, j'ai habité Toulon, moi, alors c'est pour ça l'accent du sud, je sais bien le prendre.
Ah oui, là, c'est bon.
Voilà, merci, ouais. Elle va bien être rayée, la Laguna.
16h, 18h, l'équipe est sauvage sur Europe 1.
Et à suivre dans l'équipe est sauvage, la chronique d'Eva Rock qui a choisi 2 programmes télé pour les enfants. En attendant, California Soul sur Europe 1, retour en 1969.
Like a sound you hear that lingers in your ear, but you can't forget from sundown to sunset.
était aussi connue qu'elle aurait pu l'être, hein, finalement. Peut-être parce qu'elle était difficile à classer. Marlène à Shaw, en deux mots, hein, bien sûr. Shaw, S-H-A-W, j'adore. California Soul, donc, qui était quand même à la base, au départ, à l'origine, donc la phase B d'un single des Messengers, sorti deux ans plus tôt, donc en 1967.
Sur Europe 1, l'équipe est sauvage.
Apprendre et se détendre, c'est possible avec Mathieu Noël chaque après-midi de 16h à 18h sur Europe 1 avec sa complice Eva Rock. Eva Rock que l'on retrouve à présent pour sa programmation télé destinée à la jeunesse.
L'idée de dire que la cohabitation forcée que nous vivons nous incline à un certain agacement vis-à-vis de nos enfants. Donne-moi cette idée, car en réalité, nos enfants étaient déjà agaçants avant le confinement.
C'est vrai.
Le problème, c'est que maintenant, on est coincé avec eux 24 heures sur 24 et qu'on peut même plus les envoyer étudier l'anglais chez les Rosbif pendant les vacances pour s'en débarrasser. Comme au bon vieux temps où une mauvaise note suffisait à les envoyer loin.
Hein ? Ah bah, hein, en anglais, on n'a pas idée.
Je suis pas doué pour les langues. Tu partiras en Angleterre pour un mois.
Mais pas, j'avais fait des projets.
Je m'en fous ! Je te change avec la fille de McFarrel, la marchande de whisky. Alors tu vas là-bas, et viens ici, on lui parle français, toi, il te parle anglais, et tu l'auras, toi.
Fini les échanges scolaires si enrichissants. Cet été, on va encore les avoir sur le dos.
Ah oui, là,
alors,
c'est
mieux
clair.
En prévoir large sur les programmes télé, n'est-ce pas, Eva ?
Oui, je vais essayer de vous donner un peu quelques conseils pour gagner de précieuses minutes de non-agacement. On va faire un peu de place à l'imaginaire, à la poésie, puis à la musique aussi. Alors Mathieu, vous n'étiez pas né évidemment quand cette musique a retenti dans les cinémas américains, notamment on était en 1940. Ce sont des notes du compositeur Paul Ducasse pour illustrer une séquence dans laquelle Mickey incarne un apprenti sorcier incapable de maîtriser les forces magiques. Est-ce que vous vous souvenez de cette séquence ? Est-ce que vous avez vu ça quand vous étiez enfant ?
Alors je l'ai vu quand j'étais enfant, je l'ai vu sur le tard et surtout je l'ai beaucoup montré à mon fils.
Et oui, Fantasia, voilà, vous aviez tout compris. Fantasia, troisième long métrage de Walt Disney, puis c'est un film un peu à part hein, qui est composé de sept séquences pour 8 morceaux de musique, de la musique classique jouée par l'orchestre de Philadelphie. C'est un dessin animé magique qui est à revoir sur la nouvelle plateforme Disney+, ainsi que sa suite qui était sortie en 1999 et qui est intitulée Fantasia 2000. Alors moi j'étais toute petite quand j'ai découvert Fantasia, mais je suis convaincue que ce film a participé à mon appétence pour la musique. J'ai longtemps gardé en tête, alors je sais pas vous quelle est votre séquence préférée, mais moi j'adorais...
Les hippopotames en tutu.
Exactement, voilà. Le ballet avec les hippopotames en tutu, des éléphants, des autruches et autres crocodiles qui rivalisent de grâce sur une musique de Ponchielli. Profitez de ce confinement pour redécouvrir ce long métrage avec vos enfants. Fantasia est disponible sur Disney+.
Hélas, trois fois hélas, Eva, tout le monde n'a pas Disney+.
Et oui, je sais, alors c'est certain. Alors en revanche, si vous avez Internet, vous avez accès forcément à la plateforme gratuite France.tv, c'est la plateforme de France Télévisions.
Hélas, trois fois hélas, Eva, tout le monde n'a pas Internet.
Oui, alors oui, mais là, je ne peux pas faire grand-chose pour vous pendant cette période de confinement. Hein. Écoutez, je suis désolée, mais si vous avez Internet, et vous êtes quand même assez majoritaire dans cette situation, vous allez donc sur France.tv, puis vous trouvez un programme très sympa qui s'appelle Yaourt. Alors Yaourt, c'est la façon dont on chante quand on ne connaît pas les paroles ou quand on ne comprend pas ce qu'on chante. Un de mes sports favoris, je le reconnais. Sirius North, dont la chaîne YouTube est un immense succès, s'attaque à des titres de la pop et devine derrière des phrases en anglais des mots français. C'est vraiment l'illusion sonore. Écoutez cet extrait de sa vidéo qui concerne Toxic, le tube de Britney Spears.
Baby, can't you see? Bébé, ne vois-tu pas ? Bon, ça c'est un peu basique, mais ensuite elle dit... Regarde la lune, cheveux orange et miel. Waouh, ça c'est de la poésie.
Débouche-toi les oreilles en urgence.
Bah pourquoi ?
T'es parti trop loin. Elle chante en anglais là.
Trop loin. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'elle dit ? A guy like you should wear a warning. Ah ouais, effectivement, je suis peut-être allé trop loin. C'est pas du tout du français en fait.
Écoutez, réécoutez Toxic et vous verrez que c'est vrai qu'on entend une phrase en français, qui ne l'est pas hein, en l'occurrence, mais l'illusion sonore, elle est évidente. Alors parfois, c'est un petit peu tiré par les cheveux certaines chansons, mais ça en devient très drôle, sachant que Sirius North traite tout cela évidemment avec humour et légèreté. Il n'empêche que Yaourt a aussi un avantage considérable, celui de nous apprendre des phrases en anglais. Et oui, c'est à découvrir sur France.tv, alors avec des extraits de chansons de Nirvana, Rihanna, Céline Dion ou encore Adele et Billie Eilish. Voilà, c'était pour les petits et les grands.
Oui, on leur mettra un casque quand même, sinon au niveau sonore, ça va être...
Oui, on est d'accord.
Il faut qu'on puisse travailler quand même.
Exactement.
Un bon casque sur les oreilles et c'est parti, mon kiki, comme disent justement les jeunes.
Europe 1, 16h-18h, l'équipe est sauvage.
Et dans un instant, on ouvre l'album Souvenir pour retrouver Mathieu Noël et l'humoriste Monsieur Poulpe. En attendant, Harry Styles sur Europe 1. Adore You, Harry Styles, et bonne nouvelle pour les fans puisque le chanteur profiterait du confinement pour écrire des nouvelles chansons, préparer un nouvel album, le troisième déjà. Apparemment, il est très créatif, il travaille sans arrêt. Et pour rappel, coronavirus oblige, Harry Styles s'est vu contraint de reporter sa tournée. Il se produira donc le 8 mars 2021 à l'Accor Hotel Arena à Paris.
Europe 1, 16h-18h, l'équipe est sauvage.
Le 12 février dernier, Mathieu Noël accueillait le chroniqueur, l'animateur, télé-humoriste Monsieur Poulpe pour parler de son actu, notamment sur Canal+. Et puis il a affronté Eva Rock sur un quiz, clin d'œil à l'une de ses émissions.
2 heures pour étoffer votre culture G sans pour autant vous démettre en neurones. Et en présence d'un invité d'honneur, c'est Monsieur Poulpe qui nous accompagne aujourd'hui.
Bravo Monsieur Poulpe, bravo.
Il est exceptionnel.
Pionnier du web, en 1997, vous diffusez votre première vidéo sur le net. C'était quoi cette vidéo, vous en souvenez?
C'était vraiment pas bien, ouais, mais je me rappelle. Bah après, ce qui est important, c'est la date, hein, pas le contenu. Mais oui, c'est, je crois que, je sais plus, c'était encore un faux film d'horreur nul.
Ça, c'est votre passion, vous faites encore des films d'horreur.
Moi, je suis un vrai amoureux des films de genre, et donc je l'ai fait en mode rigolo. Parce que,
oui, voilà. C'est rigolo et c'est dégueulasse, parce que
merci.
Les costumes et les effets spéciaux, quand vous bavez, c'est vraiment horrible.
Mais vous l'avez jamais vu sur...
Il n'y a pas besoin d'effets spéciaux pour baver. Hein,
oui. Vous l'avez jamais vu arriver sur scène, Poulpe? Parce que moi, j'ai eu la chance de vous voir à Montreux. Je pense que c'était une de vos premières scènes.
En Suisse, chez moi.
Ouais, c'est pour le festival de Montreux.
Ouais, mais c'était quel sketch? Après, je dis à chaque fois que c'est ma première scène.
Et donc, je pense que vous arrivez bien en vomissant sur scène.
Ah oui, oui. Ouais, voilà. Mais ça, c'était à chaque fois que je disais que c'était ma première scène.
Ah, ça, c'est sûr, ça marque les esprits, arriver en vomissant sur scène. Ouais. Quel regard vous portez sur justement l'évolution entre cette première vidéo en 97 sur le monde? Je veux dire, pas sur vos vidéos à vous qui ont effectivement progressé, on peut le dire.
Oui.
Mais sur l'évolution des YouTubers, c'est devenu un business, une industrie.
Alors après, moi, quand j'ai commencé en 97, YouTube n'existait pas. C'est arrivé en 2006. Mais l'humour sur Internet, il évolue comme l'humour sur scène ou en télé ou au cinéma, etc. Et c'est marrant de voir les modes de comment est-ce qu'on fait des blagues sur YouTube. Mmh. Il y a eu un long moment où c'était ce qu'on appelait des face cam, où c'était genre
dans
normal,
sa chambre,
voilà, face caméra. Voilà. Ensuite, il y a eu les sketchs avec de grosses productions, ce qui s'est passé avec Studio Bagel, Golden Moustache et tout. Et là, on est en train d'arriver à une nouvelle étape qui est lancée par McFly et Carlito, qui est de singer un peu la télévision. C'est qu'on n'est plus sur des programmes avec évidemment de la production en moins pour garder cette touch internet, mais on n'est plus sur de l'humour en flux.
Alors ça, c'est très intéressant, je trouve.
Oui, j'ai vu que tu croisais tes bras.
Quand je croise mes bras, c'est que je trouve le truc vraiment intéressant et que je réfléchis à ce que je vais dire. Et non, ce qui est intéressant, c'est que on pourrait imaginer que vous, les youtubeurs, en quelque part, les gens d'internet, vous ne vous intéressez plus à la télé, que la télé est morte, que c'est un format. Et maintenant, vous remettez à parodier différemment, c'est pas les inconnus, mais les émissions de télé.
Alors, c'est pas la parodie,
c'est des vraies émissions. Comme notamment Poulpovision, où vous créez des plateaux de télévision, c'est un plateau qui tourne et il y a différentes émissions au sein de laquelle vous entraînez votre invité. Ouais. Mais il y a cette dimension quand même de se moquer, entre autres, en tout cas de s'inspirer des formats
fond,
télé.
Ouais, complètement.
Et ça, vous trouvez pas ça bizarre?
Moi,
j'ai l'impression que vous étiez au-delà de ça, c'est-à-dire que la télé, c'était pour nos grands-parents, quoi.
Alors après, tu parles de Poulpovision ou de l'humour sur YouTube?
Je parle de Poulpovision et de l'humour sur YouTube quand vous disiez que d'autres maintenant reprenaient des émissions de télé.
Après, je trouve, c'est une évolution assez logique, je trouve, parce que il y a énormément de terrains qui ont été explorés dans le sketch. Ouais. Donc du coup, bon, on tournait à vide, donc c'était important que sur YouTube l'humour évolue. Et je trouve ça assez logique qu'on aille vers un format plus posé, parce que aussi, je pense que tous ces youtubeurs, ils en ont eu plein le cul de avoir, avec le système D, de faire 15 casquettes pour sortir un sketch très produit. Et donc du coup, d'être assis à une table avec un invité et faire des blagues, c'est beaucoup plus simple.
C'est plus confort, finalement.
Voilà, ce que vous faites tous les jours, finalement.
Évidemment. Alors le grand moment est arrivé, Eva. Face à vous, Poulpe, une femme qui réunit tout ce que vous aimez, la beauté, l'intelligence et un goût prononcé pour les boissons alcoolisées. Eva, votre cerveau est-il prêt pour le quiz?
J'ai pas encore eu le temps là d'avoir mal à la tête parce que je suis encore ivre.
Parfait. Alors Poulpe, allons-y.
Comment j'ai pu dire un
pour le duel? Je ne sais pas, mais il faut imaginer. C'est-à-dire que ça renvoie à une histoire, un historique. On imagine comment vous pouvez ne pas avoir mal à la tête parce que vous êtes encore bourré. Bref, on ne veut pas savoir. Pour le duel qui va vous opposer, Eva Rock, mon cher Poulpe, nous allons rendre hommage à votre émission culte. Nous allons faire un quiz crac-crac avec certes des questions crac-crac, mais aussi des questions tut-tut, voire même des questions pouette-pouette. Ah. Une bonne réponse, un point, c'est parti. Eva, question crac-crac pour vous.
Ça m'étonne, tiens.
Le sexe de l'ornithorynque est bifide. Ça veut dire qu'il double de volume au moment opportun, ou ça veut dire qu'il se sépare en deux au niveau du gland.
Je sais même pas, qu'est-ce qu'il faut que je réponde? Il faut que je trouve une des deux solutions.
Le sexe de l'ornithorynque est bifide.
Oui.
Que signifie bifide?
D'accord.
Un sexe qui double de volume au moment opportun, ou qui se divise en deux en sa tige. En son bout.
Non, je vois très bien. Enfin, je vois très bien, j'imagine très bien. On va dire qu'ils se séparent pas parce que c'est horrible, ça doit faire atrocement mal. Non, on va dire qu'ils doublent de volume.
Eh oui, mais ouais. on voit qui présente crac-crac et qui ne présente pas crac-crac ici. Effectivement, c'est une mauvaise réponse, Eva. Bifide qui se sépare en deux au niveau du gland. Bifide, ça veut dire qu'il se sépare en deux. On parle aussi de la langue bifide du serpent. Vous y penserez quand vous mangerez un yaourt bifidus. Monsieur Poulpe, pour vous aussi, une question crac-crac. La limace de mère hermaphrodite se sépare de son pénis une fois avoir copulé, vrai ou faux?
Oh, j'adorerais que ça m'arrive. Je sais pas du tout.
Encore faut-il que ça repousse.
Je dirais vrai.
Vous dites vrai?
Ça doit être génial de se dire qu'il y a plein de pénis morts qui flottent partout et on nage au milieu de tout ça. Imagine quand on boit la tasse.
C'est vrai.
Bah, génial.
C'est le seul animal connu.
La nature a pensé à tout.
Eh oui, elle a pensé à tout. C'est le seul animal pouvant copuler à plusieurs reprises grâce à son pénis jetable.
Ah, j'aurais eu un point.
Il s'agit de la Chromodoris reticulata, une limace hermaphrodite qui, à la fois, a des organes mâles et femelles. À chaque accouplement, ils lancent leur pénis dans le vagin de leur partenaire et réciproquement, 48 heures après, tout a repoussé. On ne regrette pas sa soirée.
J'ai pas compris le réciproquement. Mais enfin, on
quoi,
reviendra
les
dessus.
Les femelles jettent leur vagin au visage.
Oui, c'est ça.
Oui, je crois que ça doit être ça.
Oui, non, c'est comme un concert. Bon. To be free, finalement.
On n'est pas Thalassa non plus, hein, j'en sais rien. Poulpe ! Eva, une question pif-paf pour vous deux. Le 16 décembre dernier a eu lieu une rencontre de boxe pour la finale du championnat d'Afrique du Sud. Que s'est-il passé ? Trois propositions. 1. À la fin du match, l'un des deux combattants a fait sa demande en mariage à l'arbitre, qui était une femme. 2. À la fin du match, l'un des deux combattants a fait sa demande en mariage à son entraîneur, qui était un homme. Ou 3. Avant que le match ne commence, un des deux combattants est tombé du ring, s'est heurté à une table, l'autre a du coup gagné par KO.
Moi, j'adorerais qu'il ait fait sa demande à son entraîneur. C'est trop beau.
Ah ouais, moi aussi.
Ça serait beau, hein.
Ouais.
Ça serait beau. Bah ouais. Non, il était pas gay. Par contre, KO en tombant du ring. Un des deux boxeurs s'est appuyé sur les cordes qui ont cédé. Sa tête a heurté la table. Il a dû abandonner avant même de commencer le match.
Monsieur Poulpe, j'espère.
Non, sinon on ferait pas là. Oh, quoique.
Oh.
Ah si.
Oh.
Mais pensez bon à sa famille. Monsieur Poulpe, une question. Pouette. Pouvez-vous me donner soit l'interprète, soit le nom du titre interprété au klaxon?
J'en ai aucune idée, Mathieu.
C'est vrai?
Oui.
C'est une saison de l'année.
Ophélie Winter. Non.
Presque. C'était In the Summertime. Jerry. Un titre sorti en 70, ce qui ne rajeunit pas Jean-Philippe Ballas, qui l'a trouvé immédiatement, ce qui le date plus efficacement que le Carbone 14. Et Baroque.
Oui.
Une question tut-tut.
Oui.
Pouvez-vous me donner soit l'interprète, soit le nom du titre interprété au poulet en plastique, un de nos instruments de musique préférés dans l'équipée sauvage?
Super. C'est un de mes groupes préférés.
Vous avez la réponse?
Oui, attends.
Bah donnez-la, comme ça vous grillez son point.
C'est Toto Africa.
Ah oui, Toto. Et oui, bonne réponse de notre invité, Monsieur Poulpe, qui remporte donc le quiz, on peut le dire.
Ouais, oui.
Bien sûr, belle victoire. Vous avez été nul comme d'habitude, j'adore ça.
16h, 18h, l'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h, 18h sur Europe 1, l'équipée sauvage.
Dans un instant, l'un des correspondants de l'équipée sauvage nous parlera d'une chaîne parodique qui est en train de cartonner. Mais avant, eh bien, comment vivez-vous le confinement? Que faites-vous de vos journées? Eh bien, Mathieu Noël attend vos messages.
Vous nous envoyez vos messages directement sur l'adresse mail de mon éternel complice et en ce moment secrétaire, Eva Rock, eva.rock@europe1.fr.
Bonjour la Sauvage Family, je suis Sébastien et j'habite aux portes de la Suisse normande dans le Calvados. Pour moi, le confinement, c'est calme, campagne, champ d'oiseaux, barbecue, jardin et travail aussi, car je suis chauffeur routier et en cette période difficile, j'achemine à travers la France tout ce qu'il vous faut et tout ce qui vous est nécessaire. Sur la route, c'est nos stress, nos bouchons, nos fermetures, bref, que du bonheur. Bonjour aux amis Twitos de l'équipée sauvage et des ex de Debout les copains. Passez à la maison quand vous voulez, on se fera une bonne côte de bœuf au barbecue bien sûr. On se retrouve très bientôt. Bisous les amis.
Merci, c'est Sébastien. Mais oui, merci. C'est à plus de 100 km de chez nous là pour l'instant. On va pas pouvoir y aller pour l'instant, Mathieu.
Oh, un barbecue en Suisse normande, ça serait vraiment mon rêve.
On embrasse Sébastien qui nous écoute souvent depuis son camion. Et puis on a eu aussi un message de Hugo. Écoutez bien, alors attention aux calories. Hein.
Bonjour Mathieu Noël, bonjour Eva Rock. Même si le confinement touche à sa fin, il aura paradoxalement apporté son lot de bonnes nouvelles. Il aura été l'occasion de se remettre au fourneau. Au menu pour le moment, risotto aux asperges et aux crevettes, mousse au chocolat et j'arrête vos confits. au miel à la façon de Guillaume Gomez, et le brownie chocolat noix de pécan caramélisé de Cyril Lignac. S'il faut bien travailler pour valider son semestre à la fac, il ne faut pas oublier de s'entretenir physiquement. Encore plus agréable lorsque l'oncle parisien s'est mué en coach sportif à distance et qu'il n'y va pas de main morte. Les fessiers abdominaux, quadriceps et pectoraux de la famille s'en souviendront. Dans l'Ouest lyonnais, Hugo Darissoglou, Europe 1.
Merci beaucoup Hugo, merci à vous tous. Vous continuez à nous envoyer vos messages sur ma boîte mail eva.rock@europe1.fr. Si vous voulez faire passer des petits coucous, des petits messages à vos proches, n'hésitez pas, voilà, on est aussi là pour ça. Et merci encore pour tous les messages que vous nous envoyez tous les jours.
Comment ça se passe chez vous les amis, notamment Mathieu Charrier et hors antenne, vous nous disiez que vous attendiez un colis, une livraison aujourd'hui assez importante visiblement pour votre quotidien confiné. Est-ce que vous pouvez partager avec nos auditeurs le contenu de ce colis?
De l'eau pétillante.
Bien sûr.
De l'eau pétillante. Et bien évidemment, comme je n'utilise pas les offres de cette émission, nous ne découvrirons pas demain qu'il s'agissait en fait de pinard. Évidemment, merci Mathieu Charrier pour ces nouvelles de votre confinement. Si vous n'aimez pas le cinéma, si vous n'aimez pas les animaux, alors comme disait Belmondo,
allez vous faire foutre.
Et voilà.
Sinon, restez avec nous. L'équipe est sauvage continue.
16h, 18h, l'équipe est sauvage sur Europe 1.
Écoutez, l'équipe est sauvage, la compétition désormais internationale, opposant chaque après-midi les meilleurs journalistes d'Europe 1, car oui, depuis le début du confinement, nos correspondants en région et à l'étranger tentent eux aussi d'être élus chroniqueurs du jour. Avant de donner la parole à Jean-Luc Boujon, notre correspondant à Lyon, je rappelle le top 3 des thèmes les plus cons à ce jour. La douchette à popotin portative d'Hélène Paul,
oui, mais c'était bien.
La webcam à cigogne d'Arthur Henbaché et la confinouse de Lionel Gougelot qui l'avait tellement testé qu'il s'était carrément assoupi au moment de sa chronique. Je sens que notre premier concurrent du jour, Lionel Gougelot, va prolonger un petit peu votre rêve, Eva.
Lionel, est-ce que vous êtes avec
nous? Oui, Lionel, il est déjà bourré à la confinouse. Déjà bourré avant même d'avoir commencé sa chronique. Vous l'avez compris, Jean-Luc, la barre est haute, mais je crois que votre sujet du jour est gratiné aussi. Ça s'appelle Confinage TV, une chaîne de télé avec des grosses blagues et des parodies télé toute la journée, faites par des comédiens lyonnais, bien sûr.
Ouais, alors c'est pas Confinous TV, hein, c'est Confinage TV, faut pas prendre à Lionel ce qu'est à Lionel. Ouais, mais je trouve que le nom claque bien. L'idée, ouais, c'est effectivement celle de comédiens du théâtre lyonnais, du Lavoir Public. C'est un petit théâtre qui est sur les pentes de la Croix-Rousse. Ces comédiens sont au chômage technique depuis le début du confinement parce que, évidemment, leur théâtre est fermé. Et ils ont eu l'idée de lancer cette chaîne qui est visible sur Facebook, hein, sur le site Confinage TV. Alors, ce sont essentiellement des parodies, parodies d'émissions télé soit actuelles, soit plus anciennes, des années 70-80, qui ont bercé notre enfance, en fait. Est-ce que vous voulez quelques titres?
Ah bah évidemment.
Oh oui,
bah oui, oui.
Bon, face à l'enthousiasme général, j'y vais. On a Tourné Mélange. Tourné Mélange. Oui. Alors, on voit la référence. C'est soit Tourné Manège, le vrai, ou Tourné Ménage des inconnus, ouais, évidemment. On a aussi Gymkovic. C'est l'émission de sport de la chaîne, avec l'animateur John Fondu, qui remplace Jen Fonda. Voilà. On a aussi l'émission littéraire Limitrophe, présenté par Bernard Pavot. Et aussi le plus petit cabaret du monde, parce qu'ils n'ont pas les moyens.
Bah oui, voilà, forcément.
Et on a l'émission phare de la chaîne, le télécrochet, non pas The Voice, mais The Co-Voice 19. Voilà, avec des gens qui chantent, hein, les acteurs qui chantent les uns après les autres.
Et c'est tous les jours, ça?
Oui, alors pas toutes les émissions tous les jours, mais il y a plusieurs émissions par jour, hein, des rendez-vous qui se créent, parce que ça dure depuis un mois. Hein. Ils ont fêté leur premier anniversaire, enfin leur premier mois d'existence. Chaque comédien donc est dans son salon. Ils sont tous reliés entre eux par l'appli de visioconférence Zoom, un peu comme nous quand on fait l'apéro le soir. Et on est vraiment dans de l'impro. Hein. C'est du délire un peu en permanence. C'est souvent très drôle. Et puis parfois, c'est carrément n'importe quoi, faut admettre. Donc c'est plutôt à regarder en flux continu quand on en a envie. Et il y a des petites pépites à chaque fois, chaque jour.
Mais on a envie d'entendre,
bah oui,
Jean-Luc.
Oui, ah, évidemment.
Moi, je propose pour commencer un extrait du plus petit cabaret du monde.
Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Et moi aussi, je vous aime. Bienvenue dans ce plus petit cabaret du monde. J'aimerais qu'on retourne du côté de... Pas du côté de chez Swan, mais du côté de chez Josiane. Ça va, Josiane?
Oui, ça va bien,
Merci Christian Gilbert de me recevoir dans ton cabaret de plus petit monde.
Voilà, on mélange un peu tout. Je trouve que ça fait un peu les inconnus.
Il y a quelque chose. Chiens.
Voilà, les chiens, on dirait Zézette et Pouzix.
Oui, c'est
là,
ça, ouais, exactement.
Il y a de ça chez Josiane. Voilà, alors c'est des émissions qui durent parfois une heure. Voilà, ça donne lieu à tous les délires possibles. On est vraiment dans la parodie et c'est encore un peu plus vrai avec Tournée Mélange. Hein, je pouvais pas passer à côté.
Surtout qu'ils sont pas mal mignons. Hein. Je pense qu'ils sont des jolis bébés. Hein.
Et ils sont très mignons. Oscar, si tu étais un film, serais-tu plutôt Vincent, François, Paul et les autres de Claude Sautet, 40 ans, toujours puceau, alors dans ton cas plutôt 30, de Jude Apatow.
Voilà, on est vraiment là-dedans. On a presque envie d'entendre Bijoux et Grey, surtout après.
Vous faites bien, dis donc.
Ouais, ouais. Alors, ils ont leur style à eux, très délirant. Ils ont aussi une émission de cuisine. Hein. Laurent Deutsch parlait de gâteau tout à l'heure, émission de cuisine qui s'appelle Cuisine et confinement. Écoutez.
Oh, des musiques encore plus pourries que nous.
Bienvenue dans Cuisine et confinement. Face à vous, vous avez un homme humilié, un homme blessé. Fini les recettes hyper techniques de mamie. Aujourd'hui, c'est sandwich pour tout le monde. Un bon petit sandwich triangle.
Bah oui.
Voilà, alors après, il nous l'a fait vraiment. Hein, et je vous conseille d'aller la voir. Hein, elle est sur Facebook.
Confinage voilà. TV, donc, sur Facebook, à découvrir. Merci Jean-Luc Boujon. Et puis, je suis sûr que, même si elle est votre adversaire dans cette manche, Anne Le Gall se joint à moi pour embrasser tous les Lyonnais.
Il y en a qui puent, hein.
Oh,
mais non, Anne, c'est pas
non, Anne, c'est pas possible.
Oh, c'est vache.
Europe 1, 16h, 18h. L'équipe est sauvage.
2 heures de bonne humeur qui s'achèvent, hein, en compagnie de Mathieu Noël, d'Eva Rock et de nos journalistes compétiteurs confinés mais motivés pour décrocher le titre de chroniqueur du jour. Et la grande battle continuera demain dès 16h sur Europe 1. Mathieu Noël, comme à son habitude, prendra également des nouvelles d'un artiste ou d'une personnalité. Et demain, ce sera le présentateur légendaire de l'émission C'est pas sorcier, Jamy Gourmaud. À vous qui nous rejoignez à l'instant, soyez les bienvenus. C'est l'heure de l'info, c'est l'heure de retrouver Wendy Bouchard.